Bienvenue à la French Connection, un épisode spécial avec Jean-François Derico.
Bonjour Nicolas, merci de l'invitation.
Ça fait énormément plaisir. Ça suit l'épisode 121 sur lequel on avait abordé vaguement les fonctions du commissaire à la vie privée fédérale et provinciale. Et à quelle mesure, dans le cas de l'actualité, ça avait été quelque peu étrange l'absence de réaction, surtout du commissaire à l'accès à l'information du Québec dans ce cas-ci. Et Jean-François m'avait contacté pour peut-être un peu rectifier ou préciser certains éléments qu'on avait abordés à ce moment-là, dont l'élément de déclaration obligatoire.
Oui, en fait, merci. C'est tout le temps intéressant d'avoir le bénéfice de votre perspective sur la façon dont des incidents sont gérés. Puis j'ai eu la bonne idée de m'attarder à cet épisode-là récemment. Fait que l'enjeu qui amène un certain degré de complexité, c'est qu'au Canada, il y a plusieurs lois qui encadrent puis qui énoncent des obligations de protection des renseignements personnels. Fait que la loi fédérale, que tout le monde désigne habituellement sous son acronyme anglophone de PIPEDA, là, qui la loi adoptée par le Parlement fédéral en 2000. Alors, elle s'applique dans la loi canadienne, qu'on désigne habituellement sous son acronyme de PIPEDA, s'applique dans toutes les provinces canadiennes, sauf dans les provinces qui ont elles-mêmes adopté une loi qu'on dit d'application générale sur la protection des renseignements personnels. Fait que là, ce long paragraphe-là peut être remplacé par « sauf au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, qui sont les trois provinces qui ont adopté leur propre loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et dont les lois ont été reconnues équivalentes par le gouvernement fédéral. Bon. » Alors, bien que le 1er novembre ou octobre 2018, là, je suis confus, soit entrée en vigueur des dispositions de le PIPEDA qui impose une obligation de déclaration au commissariat à la vie privée du Canada et un avis aux personnes concernées en cas d'incident de sécurité affectant la confidentialité des renseignements personnels, puis on reviendra aux autres critères après. Cette obligation-là, elle s'applique en réalité seulement dans les provinces autres que le Québec, l'Alberta, la Colombie-Britannique, ou dans ces provinces-là, parce qu'il y a une autre nuance juridique que vous allez dire pourquoi faire les choses, pourquoi ne pas avoir fait les choses simples puis décider de les faire compliquées. Alors, elle s'applique aussi au Québec, mais à des entreprises qu'on dit de juridiction fédérale. Fait que donc, il y a deux cas, là. Il y a plus que deux cas, mais les cas les plus typiques, c'est le monde bancaire et le monde de l'aéronautique et des télécommunications. Fait que dans le fond, on peut en dire trois. Dans ces trois cas-là, indépendamment du lieu où le renseignement est recueilli ou l'activité est conduite, ça va être la loi fédérale qui s'applique. Fait que là, si on revient au cas de l'actualité, qui est un éditeur d'un magazine francophone dont les affaires ou dont les activités sont de façon prédominante exploitées au Québec, qui recueille des renseignements personnels, bon, certes, sans doute d'individus qui sont hors Québec, mais principalement au Québec, bien, c'est une organisation qui est assujettie à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui ne comporte pas de telles obligations.
Et là, la question, puisque au moment de la faille, pas au moment actuel, ça appartenait à Rogers, qui est un télécommunicateur canadien, donc normalement assujettie à la loi fédérale.
En effet.
Dans ce contexte-là, comment ça s'articule?
Ouais. Alors, c'est une excellente question. Vraisemblablement que si on avait à trancher quelle loi s'applique, on conclurait que c'est la loi applicable au moment où l'incident survient, parce que c'est là que naît l'obligation. Okay? Peut-être qu'on pourrait faire un débat sur « ouais, mais le renseignement a été recueilli à un moment où la loi fédérale s'appliquait ». Ça pourrait être... J'ai jamais eu à me poser cette question-là. Tu vois tout l'instinct que tu as pour poser des questions pertinentes à caractère juridique. Mais malgré l'absence d'obligation positive, là, quand je dis obligation positive, ça veut dire qu'il est écrit dans une loi que tu as cette obligation-là. On considère généralement qu'une des bonnes façons de minimiser le risque que l'information qui était à caractère confidentiel puis qui était compromise soit utilisée de façon malveillante puis que ça cause un préjudice aux personnes concernées, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a un risque de préjudice ici? Puis si oui, est-ce que je devrais ou non quand même aviser ou notifier les personnes concernées, même en l'absence d'obligation positive. Là, pendant longtemps, le risque d'atteinte à la réputation ou d'affecter la réputation d'une organisation prenait beaucoup de place, puis on était dans le désert des notifications. Là, depuis quelques années, particulièrement au Québec en 2019, il y a pas une habitude, mais je veux dire, c'est rendu... il y a une certaine attente, je pense, des personnes, des individus, des citoyens, d'être avisés si ça survient. Puis, il y a un effet de surprise ou un effet négatif qui peut être perçu dans le passé qui est moins là. En fait, quelqu'un qui le fait de façon responsable maintenant va peut-être même avoir une appréciation qui va en découler de la part des personnes concernées.
Mais cela étant, Desjardins a fait école pour ça, sur la façon qu'il a géré, il a bien diffusé l'information, a géré tout l'ensemble de ce que c'est. Donc, reviens beaucoup à ce que tu mentionnes sur l'effet positif, collectif, qu'ils ont fait, et non de se limiter à une réflexion corporative sur l'image de leur propre institution. Et même, ça a eu un effet bénéfique justement sur leur propre institution, parce qu'il y a eu un regard bienveillant sur l'information qui a fuité. Et j'ai juste une dernière question sur le cas spécifique de l'actualité qui est très intéressant, parce qu'il y a eu comme un changement de propriétaire. Donc, du changement de propriétaire, parce qu'il y a eu un certain débat sur Twitter sur tout l'environnement de la fuite, puisque c'est passé avant l'acquisition. Donc, puis ma présomption de non-avocat, c'est que normalement, ça suit, l'acquéreur prend le problème, il a acheté le problème au complet, il a acheté la compagnie incluant les problèmes qui viennent avec. Fait que c'est plus voir...
En fait, bon point, là. C'est sûr que par contre, dans les conventions qui régissent l'achat-vente d'actifs, là, comme dans une situation comme si où Rogers ne vend pas sa business au complet, il vend l'actif qui est l'exploitation de l'entreprise, qui est l'actualité, bien, il va avoir des engagements d'indemnisation de si jamais il y a un préjudice qui découle de quelque chose qui est survenu avant, bien, tu t'engages. Bon, alors ça existe, des fois il n'y en a pas, des fois il y en a, mais dans un cas comme ici, parmi les actifs acquis, il y a les actifs informationnels, oui, dont les banques de données des abonnés. Dans la mesure où, là, évidemment, si on rentrait dans le granulaire, là, peut-être qu'un jour, on va découvrir que ça, c'est un ensemble de données qui n'avait jamais été transmis, mais, tu sais, on n'est pas là, là. Tu sais, prenons pour acquis que ça fait partie des actifs informationnels. Oui, il y a une responsabilité de l'organisation face aux clients ou aux personnes qui ont été des clients dans le passé. Puis, tu sais, on parle de... le réflexe intuitif ou qu'on attribue intuitivement à une organisation de dire « j'aime mieux que ce bruit-là ne circule pas ». Moi, je dis pas que c'est loin d'être dénué de sens, mais il y a une question supplémentaire qu'il faut absolument qu'il rentre dans l'analyse, c'est qu'en est-il du risque qu'on me reproche de ne pas avoir avisé des personnes à un moment où j'aurais pu le faire? Et ça... C'est un risque significatif, là, parce que...
Mais ça l'a changé drastiquement cet été, ou du moins pour le contexte du Québec, là. Ouais. D'ailleurs, c'est différent. Mais le fait de ne plus divulguer est rendu plus problématique que de divulguer, là.
Oui, parce que ça maintient un genre de risque... constant, qui est matériel, qui est latent, pardon, qui est là, puis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il peut se manifester. Fait que quand on dit que Desjardins a fait école, c'est vraisemblablement le cas, là, parce que le play-by-play des communications, du programme, faut saluer le fait que ça a été fait dans l'ordre des choses. On n'a pas encore d'indication au Canada de c'est quoi la norme de diligence raisonnable, tu sais, qui va être comme l'étalon de mesure ou le repère, parce qu'on n'a pas eu de dossiers qui sont rendus à jugement. Mais là, il y a eu un ou des recours collectifs initiés à la suite de l'annonce faite par Desjardins de l'incident. Alors, moi, je ne souhaite pas à du monde, puis j'encourage pas le monde d'aller devant les tribunaux, mais le jour où il va en avoir une décision, on va avoir un certain repère qui va permettre d'aiguiller. Parce que là, actuellement, la loi fédérale, puis on peut penser que le libellé de la loi fédérale va influencer d'autres législateurs, là, d'autres lois d'autres lois provinciales, dont celles qu'on anticipe au Québec, utilisent les mots, tu sais, pour le déclencheur de l'obligation de donner un avis, c'est le risque réel de préjudice grave, susceptible de découler de l'atteinte à la confidentialité des renseignements personnels. Et ça, là, il n'est pas écrit dans la rue le jour où ça arrive. Il faut vraiment qu'il y ait une forme d'analyse. Puis pour que l'analyse soit efficace, c'est là que on parle, là, pas nécessairement dans des entrevues, mais je sais qu'avec toi et avec certains de tes collègues, un des enjeux auxquels on fait face souvent, c'est la capacité des intervenants de communiquer intelligemment puis ouais. efficacement. Puis dans le cadre de gestion d'incidents, s'il y a une chose qui est importante, c'est vraiment cette communication-là, puis que les parties aient des attentes claires sur le type d'informations dont l'un et l'autre ont besoin. T'sais. Et là, dans le cas du risque réel de préjudice, je dis ça parce que je me suis penché là-dessus récemment pour essayer de faire une analyse de ça va être quoi les paramètres applicables. Puis il y a vraiment là, je pense qu'il va falloir faire de l'éducation puis de la communication adéquate pour que les intervenants sachent comment c'est important de recueillir une information complète lorsqu'il y a un incident qui est constaté. C'est pour être capable de faire un jugement sur on donne un avis, on donne pas un avis. Puis, il est où le risque, là, tu sais?
Oui, mais ça, de toute façon, de ce que tu m'as expliqué précédemment, c'est cette évaluation-là est faite par l'entreprise qui est touchée par l'incident et la fuite de données. Donc, il est mis dans les mains de cette compagnie-là de faire cette évaluation-là. C'est sûr que la grille d'évaluation a dû changer énormément dans les derniers 6 à 12 mois, puisque il n'y a pas si longtemps, des fuites de données à la Equifax, c'était passé en dessous du tapis, puis le risque de préjudice était finalement considéré comme étant minime ou suffisamment bas pour ne pas soulever aucun problème. Là, on a vu plus dernièrement, là, ces risques-là sont mieux sentis, mieux perçus par la population aussi, puis donc conséquemment par les corporations qui vont avec. Mais la question par rapport à ça, est-ce que parce que là, on est strictement au fédéral, est-ce que le commissariat à la vie privée au fédéral a un droit de regard sur cette évaluation et de rebalancer l'évaluation de la compagnie qui est affectée ou il laisse les cartes blanches à cette institution-là?
Bon, c'est une... le commissariat à vie privée a le pouvoir d'enquêter sur toute atteinte à des renseignements personnels. Puis ça s'étend à la façon dont l'organisation va gérer un incident de sécurité et également, dans la même veine, sur le fait qu'une organisation ait ou non donné un avis en certaines circonstances. Alors, pour que ça arrive, bien, il faut ou bien qu'il y ait quelque chose qui soit, tu sais, comment dire, diffusé en public, là, une information sur un incident, ou que quelqu'un porte une plainte. Bon. Est-ce qu'il peut décider à la place de l'organisation de donner l'avis? Là, je vais vous avouer que j'ai pas anticipé cette question-là, puis ça m'embête de te répondre maintenant. Okay. Mais chose certaine, il y a...
Ben, la question, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir discrétionaire essentiellement?
Non. Il y a pas de la décision, elle appartient ultimement à l'organisation, mais quelqu'un qui omettrait de le faire alors que les circonstances le commandent s'expose à ce que le fruit d'une enquête soit diffusé par le commissaire. Et ça peut donner lieu à un recours ou bien initié par le commissaire ou par un individu devant la Cour fédérale. Puis ultimement, bien que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, je pense que c'est jamais arrivé, là, mais le procureur général du Canada peut décider d'entreprendre un recours pour un manquement à une loi canadienne.
Okay.
Alors ça, c'est jamais survenu en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, puis PIPEDA, mais c'est pas exclu. Alors là, et sache, je termine là-dessus, que le commissariat milite et a annoncé qu'il allait militer pour avoir des pouvoirs accrus dans une révision éventuelle de la loi.
Ouais.
Au même titre qu'il a annoncé récemment, là, parce qu'à la suite d'Equifax ou de l'incident ayant affecté Equifax, il avait entrepris une consultation publique sur l'opportunité de réviser les lignes directrices sur le transfert transfrontalier de données à caractère personnel. Et là, ils ont publié leur positionnement, à savoir, étant donné qu'il n'y a pas de modification à la loi, on ne sent pas la légitimité de réviser ça. Alors, on les maintient dans l'état où elles sont actuellement. Mais il annonce du même souffle, puis il dit « Mais sachez que moi, je commence à tout de suite commencer à requérir des pouvoirs accrus et un pouvoir réglementaire, puis une révision des dispositions pour mettre un peu plus de robustesse dans les analyses qui doivent précéder ces transferts. » En tout cas, mon point, c'est qu'il annonce qu'il va requérir d'autres choses.
Ce qui est essentiel, de toute façon, tu m'avais fait référence à la loi de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, dans lequel il est beaucoup plus sévère, mais de façon large, l'Europe a le RGPD, qui est quand même une loi assez sévère. à laquelle les entreprises américaines ont l'air d'être non préparées à ça, mais alors pas du tout. Puisque, puis juste au moment de l'enregistrement, j'ai tombé sur un article aujourd'hui qui disait qu'il y avait une chicane en cours de préparation entre Microsoft et l'Union européenne parce que la protection des données ne semble pas répondre aux critères du RGPD. Donc, il commence à avoir une certaine zone de friction entre les compagnies américaines, mais qui ont une portée internationale, et les différents blocs géopolitiques, dont le bloc européen qui est quand même assez important et assez massif en termes de nombre et de valeur économique, que voir comment le rapport de force va se déterminer.
Mais on a vu, tu sais, ouais. Le rapport de force, il s'est joué là, sur le droit à l'oubli. Là. Il y a eu une décision d'un tribunal européen qui... Avec qui, donc? En tout cas, bref, on pourra compléter ça après, là, mais oui, bon point. Je pense que, bien qu'il y a eu une volonté de faire des gestes vers la conformité de plusieurs entreprises hors Europe, des Canadiennes et des Américaines, il va peut-être avoir une levée de bouclier à un certain moment sur, là, vos velléités internationales. T'sais, calmez-vous, Européens. Ils vont être testés, ces velléités-là. C'est à voir, en effet. Sauf certaines... On va probablement avoir, parce que la ministre de la Justice québécoise a annoncé il y a quelques semaines sa volonté de déposer un projet de loi modificatrice, des lois sur la protection des renseignements personnels. Fait qu'il y a la loi sur l'accès, là, celle qu'on appelle loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. On devrait peut-être penser à raccourcir les noms. Déjà, ça serait peut-être plus...
Comme au fédéral, avoir juste un acronyme PIPEDA.
Ou aux États-Unis, puis avoir un cool name pour toutes les lois. Mais bon, le Cloud Act, puis le Freedom Act. Alors, non, mais je reviens à ce point-là parce que... il y avait eu, en 2018, le dépôt d'un projet de loi pour modifier la loi applicable au secteur public, donc la loi sur l'accès. Et dans ce projet de loi-là, qui était le projet de loi 179, il y avait des dispositions qui introduisaient une obligation des organismes publics de faire une déclaration à la commission d'accès à l'information et un avis aux personnes concernées en cas d'incident de sécurité. Et ce projet de loi-là, ben, il est mort au feuilleton là, parce qu'il y a une élection générale de déclencher en la fin août 2018. Et il n'y a pas de raison de penser, ben, en fait, tout indique que le projet de loi modificatrice annoncé par la ministre de la Justice va reformuler cette obligation-là ou cette proposition de modification-là dans la loi secteur public. Et à la lumière de certaines consultations privées qui ont été faites par le gouvernement pour la modification de la loi secteur privé, mais on anticipe la même chose aussi. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, pour être demeuré équivalent à la loi applicable au fédéral, il faut que ce soit introduit dans les lois provinciales.
Ouais, ben, s'ils veulent maintenir leur exemption, ils vont maintenir une équivalence.
Puis ça l'est déjà en Alberta en passant. Là, cette obligation-là existe en Alberta.
Mais là, l'autre question, puis pour revenir à ce que le fédéral dit, au nouveau commissaire fédéral, est-ce qu'il va y avoir des mesures punitives associées à ça ou des mesures coercitives pour inciter les entreprises à collaborer, de plein gré, là, au lieu d'être juste dans un modèle où on se cache jusqu'à temps qu'on se fasse découvrir, puis il n'y a pas de conséquences? Parce que je sais que... Puis ça, c'est ma critique malheureuse du régime québécois. C'est que le cadre législatif du commissaire est trop petit. Et de ce que j'en sais, et je peux me tromper, son cadre budgétaire pour permettre l'application aussi est trop petit. Parce que les deux doivent aller de pair. Si il n'y a pas d'argent pour appliquer la réglementation, il ne se passera rien. Là.
Non, bon point. Alors, on va découper ça. Premier point, c'est oui, j'anticipe que dans les modifications législatives à venir, tant au fédéral qu'au Québec, moi, j'anticipe qu'il va avoir un pouvoir de sanction. Donc, d'émettre des constats d'infraction et des financiers, comme il y a dans la loi anti-pourriel, où on a accordé au CRTC, il me semble, c'est le CRTC, l'organisme chargé de l'application de la loi, le pouvoir d'émettre des sanctions financières. Alors, moi, j'anticipe qu'on va avoir ça dans les lois fédérales et québécoises. Maintenant, à quelle hauteur? L'autre question qui est plus importante, pas plus importante, mais qui est aussi importante, c'est est-ce que la Commission d'accès à l'information, à qui on a donné deux missions, hein? Mission gérer l'exercice des droits d'accès à l'information, puis la façon dont les organismes publics répondent aux demandes d'accès et les organismes privés, en fait, parce que la fonction juridictionnelle, tu sais, le genre de tribunal administratif de la CAIR, ça fonctionne bien, là, au sens où, je veux dire, les choses suivent leur cours, ils gèrent beaucoup de dossiers, font leur travail adéquatement, puis il y a une jurisprudence. Mais le deuxième volet, qui était la protection des renseignements personnels, ça, vu de loin, on a le sentiment qu'on n'a jamais doté l'organisation de d'autres choses qu'un certain budget de recherche pour publier de la documentation qui, oui, est bien faite, mais tu sais, je veux dire, qui a une vocation d'éducation, mais ils n'ont pas eu, je pense, de moyens, de ressources suffisants pour faire les enquêtes que la loi leur permet de faire. Pensez, par exemple, aux bases de données biométriques, OK?
Oui.
Bon. Je pense que c'est l'article pertinent de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information dit toute organisation qui veut commencer à alimenter une base de données d'informations à caractère biométrique doit donner un avis à la commission d'accès à l'information qui a un certain...
Puis il y a un registre aussi de ça.
Il y a un registre qui est public. Oui. Mais le registre, il n'est pas long, on va dire. Pour une province de 8 millions de personnes qui a une économie comme la nôtre.
Puis il n'est pas très dynamique non plus.
Non, non. Alors, tu sais, ça, c'est un exemple de... J'ai l'impression que, tu sais, dire à une organisation, vous avez une responsabilité sans donner de moyens. Fait qu'il y a une réflexion à faire par l'État à se dire, est-ce qu'on veut investir là quelque chose qui est cohérent avec l'importance qu'on dit que les obligations ont, tu sais.
Oui.
Mais évidemment, c'est un truc d'allocation de ressources. Je dis pas que c'est simple, mais
si on veut être cohérent. Puis il y a peut-être... De toute façon, la loi dans laquelle elle est à l'heure actuelle est quand même découle d'une réflexion qui commence à être désuète par rapport où on vit actuellement. C'est sûr que la base de données biométriques, c'est une chose, c'est bien, il y a une volonté. Il y a certains États américains aussi qui ont des lois similaires à celle-là. Mm. Mais ce spectre-là unique est un peu étroit par rapport à comment on vit à l'heure actuelle. La vie numérique en 2019 n'est pas comme elle a été vécue. Puis l'espace où le législateur et l'État doivent venir rebalancer les forces, puis c'est vraiment ça, n'était pas aussi marqué quand la loi est écrite que maintenant.
Ah non, c'est tout à fait...
Puis le rapport de force doit vraiment être modifié. Puis qu'on se fasse pas rire en pleine face comme Equifax a fait, parce que sérieusement, la façon qu'Equifax a géré l'ensemble du dossier, c'est farfelu. Ils sont allés jusqu'en comité, je pense, sénatorial aux États-Unis, puis ils niaient encore le problème de la fuite d'informations qu'ils avaient. Donc, c'est complètement fou à quel point il y a une déconnexion. Ce qui est important, puis c'est pour moi, le rôle des agents de rééquilibrer les forces, c'est de s'arranger que le citoyen soit correctement protégé face à des forces qui sont plus grandes que lui, dont les corporations maintenant qui sont...
Mais c'est tout à fait vrai de dire aussi que l'environnement numérique, tu sais, je veux dire, je pense que, en toute honnêteté intellectuelle, il faut dire que le législateur des années 80 pouvait difficilement se projeter dans une réalité telle que la nôtre où le transfert de données est facilité à un stade. Le transfert, l'accumulation puis le traitement est vraiment rendu avec un degré de faisabilité qui n'était pas imaginable. Fait que oui, c'est un cas ici où on est dans une activité législative ou une réalité à encadrer où il faut constamment se demander c'est-tu opportun notre environnement par rapport aux réalités, là, puis à l'équilibre des forces en présence ou au déséquilibre des forces en présence. T'sais, on n'est pas dans règles du Code civil et mémorial qui peuvent être interprétées au gré des évolutions. Là, t'sais, alors, il y a vraiment
un
besoin.
Puis, je me rappelle un jugement, je crois, de la Cour suprême sur l'espace de la validité d'un mandat pour la recherche dans un équipement informatique. Et il avait été décrit à ce moment-là, puis c'est très intéressant et très novateur à l'époque, qu'un équipement comme un téléphone ou un ordinateur est en soi un environnement complexe et complet de la vie de l'individu. Donc, on ne peut plus saisir l'équipement informatique comme étant un aspect monolithe, mais un aspect dans lequel il faut cibler exactement ce qu'on veut à l'intérieur, puisqu'il représente l'équivalent d'une maison, même plus grand qu'une maison en termes de volume et de quantité d'informations sur l'individu. Le côté...
Lis des jugements pour de vrai, toi?
Oui, je lis des jugements pour de vrai. Et le judiciaire s'est penché là-dessus et a amené une interprétation intéressante, lequel le législateur a été, en tout cas au Québec minimalement, pas tout à fait aussi éveillés à cet événement-là et à ce changement-là assez important dans le...
Mais ça se reflète certainement pas dans tout, mais à décharge législateur, c'est par exemple le Code de procédure civile, il y a un libellé qui prévoit que quand on veut saisir un équipement, un support informatique, alors que pour certains biens, on n'a pas besoin d'autorisation préalable de la Cour. Il y a un cas spécifique pour les supports informatiques pour refléter la nécessité de mettre des modalités d'exécution qui vont préserver justement les environnements ou les portions d'environnement de données qui devraient l'être parce qu'il y aurait une expectative de vie privée ou qu'il n'y aurait rien à voir avec ce qui est recherché. Mais en effet, ce n'est pas quelque chose qui est reflété dans tous nos instruments, loin de là. Ce n'est pas non plus une préoccupation qui est adéquatement reflétée dans le monde juridique.
On s'en charge. Très intéressant. Je pense qu'on va conclure pas mal sur ça là. On a quand même couvert assez largement. As-tu d'autres choses que dans lesquelles tu crois qu'on
a pas couvert? Non, je pense qu'il faut absolument répéter cet échange-là lorsque le projet de loi va être déposé.
Oui, absolument.
Évidemment, on ne contrôle pas l'horaire ni les priorités du leader du gouvernement, mais si on se fie à la déclaration, on peut anticiper que, d'après moi, si c'est pas d'ici la fin de la session maintenant, ça va être au début de la session d'hiver ou au retour des vacances.
Le momentum est bon. Là. Je pense qu'il y a une volonté publique et donc nécessairement politique à vouloir arranger les choses pour que le citoyen se sente plus à l'aise et plus confortable dans le monde numérique.
Puis il va avoir certainement, dépendamment de jusqu'où ils veulent aller avec... Tu sais, parce que l'inspiration européenne est assez forte dans le monde en ce moment, là, en matière de protection des données. Alors, dépendamment jusqu'où le législateur décide d'aller puis les choix qu'il fait, il y aura peut-être des éléments qui pourraient donner lieu à des débats intéressants sur l'opportunité d'introduire certaines dispositions dans notre régime à nous. Alors, au plaisir de pouvoir en discuter.
Ce sera une occasion renouvelée. Merci.
Au revoir.